Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Les instants des Bartas.
Ce sont des interviews, des reportages ou des chroniques.
Les lundis et mercredis à 8h30.
Les mardis, jeudis et samedis à 17h.
Ou le vendredi à 11h.
Un créneau curieux de tout.
Qui parle de vous.
Du local et un peu d'autre chose.
Les instants des Bartas.
Sur le 107 FM.
Possibilité de tout, là, oui.
Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Radio Bartas. Bienvenue dans les instants des Bartas. Aujourd'hui, mardi 18 novembre, je prends l'antenne pour vous parler de théâtre sur notre territoire. En effet, je suis allé à la rencontre de l'Hiver Nu pendant leur tournée lausérienne de leur nouveau spectacle Humble Humus. À cette occasion, j'ai pu réaliser deux petites interviews que nous allons écouter dans un instant. La première, c'est avec Théo Guillaume-Guéry qui organise des stages de théâtre trimestriel pour les jeunes. La seconde, c'est une interview avec Baptiste Étard qui nous parlera du théâtre des milieux que la compagnie s'évertue à théoriser depuis quelques années et de sa relation avec Humble Humus, leur dernière création.
Je suis allé rendre visite à Théo Guillaume-Guéry à Marvejols, là où la compagnie L'Hiver Nu va montrer sa nouvelle création, Humble Humus. Salut Théo.
Salut.
Avec la compagnie L'Hiver Nu, vous proposez des stages de théâtre à destination des ados de 14 à 18 ans. Ça se déroule sur 3 week-ends pendant l'année scolaire. Premier a lieu les 22 et 23 novembre. Sur quoi vous allez travailler ?
On va travailler sur Ring, Variation du couple, sous-titré Variation du couple, de Léonore Confino.
Pourquoi vous avez choisi cette pièce ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial ?
Eh ben, c'est moi qui ai choisi la pièce. C'est une pièce qui est tout à fait adaptée pour travailler avec des ados. C'est des petites scènes en duo qui racontent la vie quotidienne d'un couple. C'est amusant et à la fois c'est riche parce qu'en fait il y a toujours deux personnages qui s'attendent à une réaction de l'autre et qui est complètement inattendue parce que c'est la vie humaine, c'est le réel, c'est comme ça. Et donc du coup, cette espèce de déséquilibre, c'est super à jouer, super à interpréter pour un ado.
On est donc plus sur une comédie que sur un drame.
Oh, il y a du drame, mais du drame ordinaire, disons.
Pour venir et participer à ces stages, est-ce que c'est nécessaire d'avoir de l'expérience où les débutants sont invités à venir essayer ?
Eh ben oui, c'est aussi pour les débutants, parce qu'en fait, l'immersion sur tout un week-end, donc c'est un stage, c'est des stages en plusieurs week-ends, l'immersion sur tout un week-end, c'est parfait pour les mordus de théâtre, qui du coup peuvent donner libre cours pendant tout un week-end à leur passion. Et pour les débutants, c'est aussi super parce que du coup, c'est immersif en fait. Et du coup, tout de suite, on rentre dans le théâtre et dans la pratique. Et du coup, c'est tout à fait adapté.
Vous pouvez un peu nous décrire comment vont se dérouler ces ateliers ?
Le samedi, en fait, on commence par des jeux qui vont permettre de se rencontrer pour le premier week-end, mais aussi de pratiquer la pièce un peu différemment. Moi, je conçois toujours des petites impros qui permettent de rentrer dans les thèmes de la pièce et en même temps d'y rentrer librement. À la fin de la matinée du samedi, on découvre des scènes à partir de petits pitchs, de petites bandes annonces que j'ai écrites. Donc les ados choisissent les scènes qu'ils veulent jouer et qui joueront pendant le reste du week-end. On les lit, et une fois qu'on les a lus, on enlève les textes aussi. Si bizarre que ça puisse paraître, on enlève les textes, et on essaye déjà, par l'impro, de retrouver c'est quoi les enjeux de cette scène, c'est quoi qui s'y passe. Et en fait, petit à petit, on va réintroduire le texte, et à la fin, à 18h le dimanche, on se présente et on présente aux parents un peu ce qu'on a travaillé. Et du coup, même pas deux jours à peine, on a monté 5 scènes, s'il y a 10 ados.
C'est quelque chose qui arrive régulièrement de faire les ateliers, c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez l'habitude ?
Ouais, alors moi je suis depuis 5 ans, c'est la sixième année du coup, je suis intervenant théâtre au lycée Chaptal de Mende pour l'option. Donc les ados qui choisissent dans leur parcours de lycée de faire du théâtre. Et du coup j'interviens 2 heures par semaine, ça fait 5 ans que je le fais, c'est la sixième année que je le fais. Et sinon depuis 3 ans on fait ces stages ados. Là la différence c'est que cette année on a décidé que ça serait sur 3 week-ends et pas sur un seul. Donc là on va avoir le plaisir de monter toute la pièce et même de faire une petite mise en scène pour la représenter en mai prochain.
Justement, cette représentation qui arrive juste après 3 week-ends, c'est assez rapide. Ça a une importance de se représenter devant un public ?
C'est capital. Ça permet de tenir un petit peu les répétitions. Ben voilà, d'avoir cet objectif à la fin, de dire ben en fait on va le présenter devant un public. Ben c'est un peu le cœur du théâtre, quoi. C'est-à-dire que il y a toujours un petit peu de trac et le trac ça fait partie du théâtre. Parce que on veut être un petit peu meilleur, on veut perfectionner ce qu'on a fait, etc. Et du coup, ça joue beaucoup dans la manière de travailler. Et c'est pour ça que chaque week-end, on présente à 18h le dimanche ce qu'on a fait durant le week-end. Et qu'à la fin, le 23 et 24 mai, on représente pendant mon pseudo Amadi l'ensemble de ce qu'on a fait toute l'année.
Est-ce que ça existerait, le théâtre sans public, ou est-ce qu'il y a forcément besoin d'un public pour faire du théâtre ?
Il y a forcément besoin du public pour faire du théâtre. Et après, le public peut prendre... ça peut être beaucoup de choses à la fois. Ça peut être prévu, imprévu, etc. Mais sans public, il n'y a pas de théâtre. Ouais, ça, je le pense vraiment.
Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux ados, aux parents qui nous écoutent pour leur donner envie de s'inscrire et de faire inscrire leurs enfants à ces stages ?
Tout à fait, c'est un moment privilégié pour former un petit groupe autour d'une passion ou autour d'une passion qu'on découvre. Et je pense que c'est un beau moment à vivre quand on a entre 14 et 18 ans parce que c'est à la fois un petit peu en dehors du monde scolaire et en même temps c'est le plaisir de se retrouver et de jouer des personnages qui sont pas nous et qui en même temps jouent avec notre humanité et c'est très agréable.
Pour s'inscrire à ces petits week-ends, comment ça se passe et combien il y a de places disponibles ?
Il y a encore pas mal de places disponibles. Pour l'instant, on est à 5 inscrits. Donc, l'idée, c'est d'arriver à 12. Donc, il y a encore des places disponibles. Il suffit d'écrire à Livernu. Donc, je vous donne l'adresse, c'est communication@livernu.com ou bien d'appeler le 04 66 45 56 47.
Pour rappel, les premières dates de stage, c'est les 22 et 23 novembre. Vous avez déjà des dates pour les suivants ?
Oui, tout à fait, 22-23 novembre 2025. En février, c'est le 7 et 8 février 2026. En avril, les dates sont à venir bientôt. Et le 23 et 24 mai, c'est Mon Petit Doigt m'a dit, un festival par et pour les enfants et les adolescents. Et c'est là qu'on représentera la pièce.
Eh bien, merci Théo Guillaume Guéry et bon stage à vous.
Merci.
Nous venons d'écouter Théo Guillaume Guéry. Nous passons désormais à l'interview de Baptiste Étard de la compagnie Livernu autour du théâtre des milieux et comment ce théâtre prend place dans leur dernière création, Un Blumus.
Je suis aujourd'hui avec Baptiste Étard de la compagnie Livernu. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes présent depuis 2009 sur le territoire lausérien. La compagnie fait depuis un moment partie des incontournables de la culture en Lozère. Entre les collaborations avec les scènes croisées, l'accueil de nombreux événements dans les locaux à la Nuéjol et la création régulière de nouveaux spectacles en lien avec le territoire. Du coup, dans vos démarches de la compagnie créative de ces dernières années, vous avez théorisé un nouveau genre de théâtre que vous mettez en avant, le théâtre des milieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Quelle serait du coup votre définition en quelques mots de ce théâtre des milieux ?
Le théâtre des milieux est vraiment né de l'importance, à notre avis, de raconter de nouveaux récits autour de cette question de la crise écologique. Ça part vraiment de là, à la base, de voir comment on se réintègre au milieu de vie dans lequel on est et comment les imaginaires et les imaginaires liés au théâtre, parce que c'est là où nous, on travaille, donc comment on raconte des histoires en relation à cette question des milieux naturels.
On prend le théâtre sous la forme de l'œuvre, l'écriture, le spectacle, le lieu. Ça prend toutes les formes, une seule de ces formes ?
En fait, ça vient vraiment mélanger différentes formes parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que par rapport à cette question du rapport au milieu naturel, nous, on a envie, et des imaginaires, on a eu envie d'aller dans les milieux naturels pour s'en inspirer et pour voir qu'est-ce que ça nous racontait. Et donc, en y allant, par exemple, Dialogue des plantes, c'était ce cas de figure-là, on a eu envie d'inviter les spectateurs à venir avec nous dans ce milieu naturel et le découvrir. Donc, Dialogue des plantes, c'est une sorte de balade botanique poétisée et où on a fait théâtre. Après, il est tout à fait possible aussi d'imaginer comment on fait venir la nature, toujours avec des guillemets, dans les théâtres, et qu'est-ce que ça se met à raconter ? Qu'est-ce que ça veut dire de faire venir la nature ? Donc par les récits, par les éléments naturels, ça pourrait être des animaux, mais nous on a plutôt préféré travailler avec des plantes, par exemple. Et donc, comment on fait venir ces éléments naturels dans le théâtre et qu'est-ce que ça se met à raconter.
Ça m'a fait penser, quand j'ai lu la docu que vous aviez autour du théâtre des milieux, ce qu'on appelait le théâtre in situ. Est-ce qu'il y a un petit lien, des inspirations ?
Oui, il y a des inspirations, tout à fait, c'est très juste, c'est dans le sens où on s'inspire, où on se laisse aussi traverser par le lieu dans lequel, avec lequel on travaille pour pouvoir en sortir un récit et un imaginaire. Donc il y a forcément cette perméabilité qu'on cherche, c'est comment on échange avec le lieu et qu'est-ce que ça nous donne comme envie de spectacle, de scène, de théâtre, de propositions plastiques, parce qu'on travaille nous beaucoup avec les plastiques, avec le théâtre de marionnettes et les scénographies. Donc qu'est-ce qu'on a envie d'inventer en relation avec ces milieux-là ?
Lesquelles de vos créations, depuis que vous êtes sur le territoire, font partie de ce théâtre des milieux ? Est-ce que c'est quelque chose qui est là depuis le début, mais qui est théorisé depuis pas longtemps ?
Oui, d'une certaine manière, c'est là dès le début, parce que la création de la compagnie s'est faite autour d'un projet qui s'appelle « J'ai marché sous les pierres » et qui est un feuilleton de théâtre chez l'habitant dans une vallée, qui était la vallée du Val-d'Aunès, là où maintenant il y a la fabrique théâtrale du Viala. Et on était déjà en relation avec le territoire. Après, on l'avait un peu laissé de côté, et en fait, ça s'est plus théorisé avec la découverte de la pensée d'Isabelle Stengers, qui est une philosophe belge, qui a réfléchi sur la question de la catastrophe écologique. Et le premier spectacle de la compagnie qui est vraiment venu se confronter à cette réflexion, c'est Un pas au milieu des dragons, qui était un diptyque avec une forme en salle, une forme en extérieur. Ça a pas mal tourné en théâtre de rue aussi, mais c'était vraiment une forme in situ, en effet. Et donc c'est le déclenchement de la recherche et l'ouverture de ce cycle autour du théâtre et écologie.
Dans ce récit autour du théâtre du milieu, vous utilisez d'autres mots comme le théâtre paysan ou encore le théâtre géographique. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques petites définitions ?
Alors, le théâtre géographique se relie vraiment à cette question-là dont on vient de parler, de comment les territoires, les lieux font sens par rapport à la création et au thème, au spectacle et au récit qu'on va mettre en place. C'est un peu aussi de se dire que le lieu peut être source d'inspiration, comme l'histoire peut être la source d'inspiration, l'histoire de avec un grand H. On va se mettre à monter des récits autour d'un événement historique. Alors comment on peut monter écrire des récits en lien avec un territoire et qu'est-ce que ça inscrit ? Donc ça, c'est un peu le théâtre géographique. Et par rapport au théâtre paysan, c'est plus par rapport au fait que la compagnie est inscrite dans un territoire avec la fabrique théâtrale du Viala, et c'est de voir de la permanence artistique, c'est-à-dire comment on vit en permanence dans un lieu. Et là, on s'est inspiré du mode de vie paysan, entre guillemets, c'est-à-dire de la saisonnabilité, de retrouver régulièrement, en hiver, en été, etc., différents temps, et en fonction de ces temps-là, de ce climat, etc., de faire des propositions artistiques en relation. Et aussi, bien sûr, le théâtre paysan, ce qui nous plaisait, c'est que dans la paysannerie, je trouve qu'il y a cette force de rassembler différents métiers dans un métier. Et un paysan, il peut être soudeur, comme il peut être botaniste, comme il peut être... Il a cette ouverture. Et je trouvais que par rapport à la création artistique et au théâtre, c'était une bonne source d'inspiration aussi de cette multiplicité des tâches qu'on retrouve aussi dans le bricolage, d'une certaine manière.
Actuellement, vous êtes en tournée pour un tout nouveau spectacle qui s'appelle Humble Humus. Est-ce que tu peux m'en parler en quelques mots, le présenter ?
Ben, Humble Humus, c'est la deuxième forme, qui est une forme en salle, en théâtre d'ombre et avec une scénographie importante et un dispositif plastique. On a travaillé avec Sophie Lécuyer. Donc il y avait à la base l'envie de la rencontre avec cette artiste plasticienne qui vit à Nancy, qui fait un très beau travail de dessin autour de cette thématique de la nature. Et après, on a eu envie, avec Claire, dans Dialogue des plantes, on travaillait vraiment dans notre relation intime aux plantes. Et là, on voulait travailler sur la relation intime à un milieu, à une montagne. Et on s'est dit qu'on allait s'inspirer d'une montagne qu'on connaissait tous les deux, qui est le Mont Lozère. Et on a, à partir de là, inventé un récit, une fiction complète, en lien avec cette montagne.
C'est un spectacle qui se trouve donc dans le prolongement de vos derniers spectacles Dialogue de plantes. La nature, là, dans ce spectacle, était du coup au centre de la pièce parce que vous étiez dans la nature, vous déambulez en extérieur. Comment on fait pour retranscrire du coup cette nature, mais sur scène et plus en plein milieu de la nature ?
Ouais, mais c'est une question intéressante et complexe, mais c'est comment on fait venir la nature au plateau. Donc là, nous, la nature, le choix qu'on a fait, c'était la montagne. Donc notre grande question sur cette création-là, c'est comment faire venir la montagne. Bien sûr que le premier élément, c'est le récit, c'est de le raconter. Donc là, c'est le texte de Claire Perraudeau qui a permis ça. Elle a écrit un texte en relation à cette montagne-là. Très rapidement, le pitch est celui d'une femme qui perd son compagnon dans la montagne. Son compagnon décède et elle décide d'aller humuser son corps, d'aller déposer son corps dans la montagne pour le rendre à la montagne. Et son amour pour l'homme va petit à petit passer à la montagne. Et donc, il était comment rendre cette montagne-là? Et c'est là où le travail avec Sophie Lécuyer nous a permis de l'imager, tout simplement, déjà par les plantes. Elle a reproduit à sa manière des plantes existantes sur le Mont Lozère, des animaux existants sur le Mont Lozère, et ensuite elle a travaillé sur une grande fresque. Il y avait l'envie d'une grande fresque, comme on est en théâtre d'ombre, on s'est dit que ça pouvait être une grande fresque représentant le Mont Lozère, donc elle a fait un choix là-dedans, et ensuite on projette des ombres sur cette fresque qui nous permet petit à petit de la faire vivre. Et après, une montagne, ce n'est pas on ne peut pas englober une montagne. Une montagne, c'est un ensemble d'éléments, et où se termine la montagne, c'est comme un arbre, etc. Où finit et où commence la vallée, etc. C'est complexe. Donc ça se représente par le dessin, mais ça se représente aussi par d'autres éléments qu'on a sur le plateau, qui sont une plante, des petits extraits de la montagne qui sont mis en collage. Donc c'est un collage vraiment d'éléments pour rendre la montagne.
Côté scénographie, comment on peut retranscrire le théâtre du milieu? Est-ce qu'on reste dans un théâtre frontal? Ou est-ce que du coup on mettrait peut-être, pourquoi pas, une scène au milieu et un public autour?
Oui, ça pose la question, parce que le fait d'être frontal à un spectacle pose question aussi par rapport à la question du paysage. Le théâtre des milieux, quand nous on a eu envie d'attraper cette question du milieu, elle nous intéressait aussi par rapport à la question du paysage. Le paysage pose question parce qu'il est en frontal. C'est ce qu'on voit devant nous, alors qu'on a l'impression que la nature nous englobe en permanence. On ne peut pas la limiter à ce qui est devant nous. C'est tout le problème du paysage, de la représentation du paysage dans les arts plastiques, etc. Et donc, bien entendu, que par rapport aux spectateurs, on a envie de voir qu'est-ce qui peut se passer si on les englobe un petit peu plus. Là, on a fait ce choix-là parce qu'il y a aussi une nécessité de faire tourner les spectacles, que l'habitude du spectacle vivant est dans le rapport frontal. Voilà, après on détourne, je ne vous dis pas tout, mais à un moment donné on fait une proposition au spectateur pour un peu rentrer dans le dispositif et changer de point de vue, parce que c'est quand même beaucoup la question du point de vue. Et voilà, donc il y a possibilité, mais c'est en effet le fait de proposer des formes qui bougent, c'est important.
Je retourne sur le Mont Lozère. Si une personne vient voir le spectacle et qu'elle n'a pas lu le pitch, est-ce qu'elle peut se dire « Ah oui, c'est le Mont Lozère, je reconnais » ou est-ce que c'est une montagne qui se perd parmi d'autres montagnes?
Non, je pense que si la personne, elle la reconnaît, on a essayé vraiment de lui donner, de lui rendre son identité. La création a été faite à Masméjean, au labo, et sur le Mont Lozère. Et je crois qu'il y avait des habitantes et des habitants et qu'ils ont reconnu leur montagne, bien entendu. Mais après, en même temps, on a voulu que cette montagne soit une représentation de d'autres montagnes ou en fait de d'autres relations. Parce que l'enjeu du théâtre des milieux, c'est vraiment celui de la relation de nous, humains, à d'autres éléments de la nature, vivants ou non vivants. Mais voilà, quelle relation on tisse avec ces éléments-là.
Vous clôturez du coup malheureusement déjà votre tournée en Lozère. Ça, c'est la dernière date, c'est le 14 novembre à Marvejols, mais on peut sûrement retrouver le spectacle ailleurs pendant l'année.
Oui, bah en fait on continue un petit peu là. La semaine prochaine on est à Toulouse et à Tournefeuille dans le cadre du festival Marionettissimo, et ensuite on joue à Amiens avec le Tas de Sable. Voilà, en novembre toujours, et on sera ensuite à Mima à Mirepoix en août prochain.
Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci à vous.
L'Instant des Bartas, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez désormais retrouver en ligne toutes les informations autour de la compagnie L'Hivernu sur notre site radiobartas.net. Moi je vous dis à la prochaine, restez sur Bartas, on s'écoute tout de suite Partir en beauté de Petite Gueule.
Bonjour, bonjour. Si on considère que le monde brûle, pourquoi on continue de créer, à votre avis ?
Changer le monde, juste avec des petites chansons.
Quoique, faut pas papa s'enferme, direz-vous. Mais si, mourons quoi derrière nous. Qu'est-ce qu'on leur laisse à ceux qui restent ? Des illusions, j'en ai beaucoup. Faut pas papa s'enferme, à qui le dites-vous ? Mais le monde pense, que faisons-nous? C'est pas joli joli, mais y'a des mélodies qui restent manifestement. Alors unissons-nous. À tous les ratatatata, y'a des sons qui font bam bam. Si on le fait pas pour nous, on le fait pour eux. Allez. Pour ceux qui pensent et qui se demandent, ouais c'est la merde, ouais c'est le drame. Faut s'accrocher même si tout part en... Ça se peut pas que chanter ça change l'histoire. Hors de question qu'il nous mène en bateau ces bâtards. Allez. Gardez votre or et partez en fumée. Pour nous, il est l'art de partir en beauté. Faut pas s'enfermer, direz-vous. Mais si mourront quoi derrière nous. Qu'est-ce qu'on leur laisse à ceux qui restent? Des illusions, j'en ai beaucoup. Faut pas s'en faire et que faites-vous? Mais le monde penche, c'est de partout. C'est pas joli joli, mais y'a des mélodies qui restent manifestement. Alors unissons-nous. Mais si, on va où là? C'est pas vrai, j'ai pas les mots. Y'a des notes qui font bloc et des sons qui font bam bam. Faut s'orchestrer parce que tout part en... Que c'est naïf de penser collectif. Tant de valeurs à transmettre et je parle pas du bif. Chantons l'histoire, c'est à notre portée, c'est pas trop tard. Il est l'art de partir en beauté. Veuillez quitter la planète comme vous souhaitez la trouver. Ça serait sympa pour ceux qui arrivent. L'histoire part à la dérive, alors il faut qu'on se la raconte. L'espoir fait vivre à ce qui paraît.
Peut-être qu'on va
jamais, jamais
changer le monde.
Bah ouais.
Juste avec des petites chansons.
La la la. Pas s'enferme, direz-vous. Mais si mourront quoi derrière nous. Qu'est-ce qu'on leur laisse à ceux qui restent? Des illusions, j'en ai beaucoup. Faut pas s'enferme, à qui le dites-vous? Mais le monde penche, que faisons-nous? C'est pas joli joli, mais y'a des mélodies qui restent manifestement. Alors unissons-nous.